Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Galère 88.4, votre radio, vous le savez, consacrée à l'actualité. Exceptionnellement, vous l'avez annoncé précédemment, nous démarrons notre journal qu'à partir de maintenant. Magazine d'actualité, vous le savez, qui a vocation à vous éclairer, à vous informer et à faire des éclairages sur des structures associatives ou autres qui ont valeur évidemment de légitimité. Ça va être le cas avec nos invités que je vais présenter incessamment sous peu. Anthony au micro, accompagné évidemment de Richard. 04 91 08 28 10, n'hésitez pas à venir à l'antenne réagir. Avis convergent, divergent, la parole est libre sur les ondes de Galère. Je rappelle qu'on est audible sur la bande FM par le biais du 88.4, mais également sur le www.radiogalère.org. Et pour ceux qui possèdent la radio numérique terrestre, la RNT, c'est le canal 8C. J'insiste sur le www.radiogalère.org, le site est désormais très bien actualisé et vous avez la possibilité de nous écouter, peu importe où vous êtes situé sur la sphère mondiale. Voilà, on va donc démarrer dans une petite minute avec un dossier qui nous tient à cœur. On aura le plaisir de recevoir pendant près de 40 minutes Sandrine Mota, MJ Conciergerie et EduxP. On va parler de son parcours, de ses projets, accompagné de Marion Camus, chef de service éducatif à l'UNAPI. On représentera ses structures, ses projets, on parlera du bien-être des femmes, on parlera de la des personnes en situation de handicap. Il y a beaucoup de choses à dire et c'est donc dans une petite minute et ce jusqu'à 9h25. 9h25, pause musicale, on enchaînera avec Jérémy Béchon, auteur et écrivain du livre L'éclat, qui sera avec nous d'ailleurs donc de 9h30 à 10h, L'éclat des fracas sur les ondes de Radio Galère. Il viendra nous parler de son livre, de cette présentation aux éditions Kiro. On nous parle un petit peu des massacres de la société. C'est pas une vision très optimiste de la vie, mais malheureusement bien réaliste. Voilà. Bonjour mon cher Richard, à toi la parole, notamment pour les journées du jour en ce temps extrêmement pluvieux.
C'est vrai, les journées mondiales vont vous être annoncées. Alors bonjour à tous, auditeurs, auditrices, à nos invités qui sont déjà présents sur le plateau. Alors la première journée, c'est la journée du missionnaire, c'est-à-dire c'est surtout l'Église catholique qui organise ça. Ça dure une semaine et il y a une journée qui est dédiée aux missionnaires, donc ils vont bien sûr porter la bonne parole, etc. Bon, voilà. Nous avons une deuxième journée qui est la journée de l'énergie. Bon, alors là, c'est une journée très importante parce que l'énergie pèse pour tout le monde, que ce soit au niveau financier et au niveau physique aussi l'énergie. Vous nous parlerez aussi de l'énergie physique.
Exactement,
dans vos domaines respectifs. Et ensuite, c'est la journée du bégaiement. Alors, est-ce que vous nous direz si ça fait partie de vos compétences, puisque c'est quand même aussi un handicap le bégaiement, hein, bon, même si on en parle moins que d'autres, voilà. Voilà les trois journées du jour.
Parfait.
Mesdames, vous êtes au courant de tout ce qu'il faut célébrer ce jour.
Exactement. Ben merci à toi, Richard, de nous éclairer. Je le répète chaque mercredi sur les ondes de Radio Galère. Si tu ne le fais pas, en tout cas moi, personnellement, on les oublierait, on occulterait ces thématiques et ces journées-là qui ont parfois vocation à nous sensibiliser et à nous rappeler de certaines choses importantes. Tu parlais du bégaiement. C'est certainement un handicap ou en tout cas une gêne pour beaucoup. Et parfois, ça paralyse aussi certaines personnes pour des projets professionnels ou même dans la vie de tous les jours. Donc c'est bien que tu l'évoques. Allez, on ouvre notre volet. Je vous l'avais dit précédemment et on est ravis d'accueillir. Elles sont avec nous sous la pluie, mais elles ont réussi à passer entre les mailles du filet, pour ne pas dire entre les gouttes de pluie. Sandrine Mota, MJ Conciergerie, EduxP, accompagnée de Marion Camus, chef de service éducatif UNAPI. On va vous saluer évidemment. Bonjour Sandrine.
Bonjour. Bonjour.
Merci d'être avec nous, d'avoir accepté l'invitation de Radio Galère.
Merci à vous de nous accueillir.
Mais avec grand plaisir. On remercie Barbara Bosquet qui a permis encore une fois
Exactement.
Ce trait d'union et cette connexion. Barbara Bosquet qu'on connaît très bien au 40 Saint-Antoine et qui permet, qui rassemble, qui fusionne, qui fédère toutes ces énergies, ces sensibilités des entrepreneurs sur le volet associatif, sociologique, l'entrepreneuriat. Enfin, la dimension humaine est très présente et elle permet ça et on la remercie parce que son énergie, on parlait d'énergie, en termes d'énergie,
oui,
Barbara Bosquet.
Elle en a beaucoup.
Elle en a beaucoup, voilà, on la remercie. Et Marion Camus, bonjour Marion.
Bonjour.
Voilà, merci d'être avec nous. Sandrine a souhaité, lorsque je lui ai dit c'est mieux dans le format de tabler sur deux personnes, Elle vous a choisi. Ouais, vous êtes l'élu du jour.
Je suis ravie, merci.
Marion Camus, vous êtes l'élu du jour, mais vous êtes extrêmement légitime. On va en parler avec votre structure. Juste avant ça, on va faire un éclairage sur Sandrine Mota, qui est avec nous donc, ce matin. Dans un premier temps, alors, votre vie et votre combat et vos actus et vos projets sont dédiés à l'éducation spécialisée. On aura l'occasion de l'évoquer. Après, on parlera du bien-être des femmes. Il y a eu cette parenthèse qui fonctionne très bien, MJ Conciergerie. Un mot là-dessus, Sandrine Mota.
Eh bien, j'ai commencé ma profession de départ, c'est que je suis éducatrice spécialisée. J'ai travaillé pendant plus de 20 ans à l'UNAPI, là où j'ai rencontré Marion, parce que nous avons travaillé ensemble. J'étais éducatrice et puis coordinatrice d'équipe. Toute ma carrière professionnelle, après autant personnellement que professionnellement, j'étais dans les accompagnements avec les personnes en situation de handicap, dans différentes, alors toujours à l'UNAPI, oui, mais dans différentes structures et avec un public varié, puisque ça peut être, j'ai travaillé avec des enfants, et puis je travaillais avec des adultes, et puis des personnes autistes, en foyer d'hébergement aussi. Avec Marion, on s'est connus parce que pendant 5 ans, on a fait les séjours vacances. Donc on partait 3 semaines, enfin 15 jours. On est parti pendant 5 ans avec les gars avec qui on passait nos années. Évidemment, quand on est en vacances ensemble, ben on n'est plus l'éduc, on est plutôt la copine avec qui on passe du bon temps. Et nous, on essayait de mettre en œuvre tout ça parce que c'était les vacances. Et
ce qui vous rassemble aussi, c'est cette dimension sociale et humaine au départ.
Exactement.
Parce que pour faire ces métiers-là, si on n'est pas tourné vers l'autre, si on n'a pas de cœur, si on n'est pas... Alors, au-delà des compétences qui vous caractérise, parce que forcément pas tout le monde peut devenir éduc-spé, pas tout le monde peut être chef de service, c'est une évidence qu'il faut des compétences au préalable, mais il y a quand même une sensibilité qui fait foi. Je m'adresse à vous et ensuite à Marion, j'imagine que c'est quand même le cœur du projet, le cœur du métier.
Oui, c'est le cœur du métier, mais après en faisant les études, les formations et en étant sur le terrain, on peut aussi arriver à se demander pourquoi exactement on fait ça ? Parce que je pense qu'il y a une dimension aussi de réparation personnelle.
Ah, c'est intéressant.
Je pense. Si on le cherche bien, on a tous quelque chose au fond de soi à réparer. Et ce public est extraordinaire pour ça, parce que c'est les personnes en situation de handicap, ça vous renvoie à des choses. Ça peut être parfois très dur.
Vous parlez sur la gestion,
mais pas que sur la gestion, okay, émotionnellement aussi.
Oui, j'imagine, parce que vous dites que vous donnez, et souvent on oublie, c'est quand même important, mais eux aussi vous rendent beaucoup. En fait, souvent on dit oui, bravo à eux, à ces personnes qui, moi en tout cas je suis admiratif de ce que vous faites, et on dit toujours ils donnent beaucoup, mais il faut quand même rappeler, et vous le dites avec beaucoup d'humilité, que ces personnes-là, je m'adresse aussi bien au public, au jeune public qu'aux adultes, vous rendent aussi beaucoup, humainement parlant.
Ben c'est-à-dire que moi, je pense toujours que pendant toutes mes années de formation ou pendant ma carrière professionnelle, on nous a toujours dit de mettre de la distance, qu'il fallait... Bon, alors bien évidemment, on en met toujours un peu. Mais moi, j'en mettais pas tellement parce que moi, mon moteur, c'était souvent dans l'émotion. Que ça venait... m'enrichir, me pousser, m'encourager, c'est l'affectif aussi qui rentre en jeu. On peut pas ne pas avoir un côté, un lien affectif avec les personnes avec qui on travaille. On passe plus de temps avec eux qu'avec notre propre famille, surtout quand on travaille. On a travaillé avec Marion longtemps en internat.
Oui.
On fait des horaires, on se lève, ils se lèvent avec nous, ils se couchent avec nous, ils mangent avec nous, ils font leurs loisirs avec nous.
Ouais, ouais.
Et de ce côté-là, c'était particulièrement pendant les séjours vacances.
Parfait. Marion, un mot là-dessus, puis je laisse évidemment la parole à Richard. D'ailleurs, on dira un mot sur MJ Conciergerie malgré tout, même si le cœur de l'interview est centralisé sur ça. Marion, quand je parle de sensibilité, quand on parle de cœur, de partage, vous vous y retrouvez évidemment dans ça?
Ah oui, complètement. C'est complètement le cœur de notre métier. Et en fait, c'est au quotidien ce qui se passe avec eux, ce qui nous renvoie, ce qui nous donne même des petites choses, parce qu'il y a, aussi des personnes qu'on accompagne. Moi, j'ai pu travailler en maison d'accueil spécialisée, donc c'est avec des personnes qui sont en situation de handicap, bien souvent moteur et mental. Oui. Et donc, c'est des personnes qui, pour la plupart, n'ont ni accès à la parole, qui sont... très vulnérable et qu'on doit accompagner sur tous les actes de la vie quotidienne. Et en fait, c'est en apprenant à les connaître, à connaître un petit peu leurs habitudes, des fois un clignement de deuil. En fait, on se dit « Ah ben tiens, aujourd'hui, il va pas très bien », alors que c'est juste parce qu'on voit son regard qui est différent. Et c'est ces petites choses-là aussi qui font que des fois, c'est des petites victoires quotidiennes où il se passe finalement de l'extérieur pas grand chose, et pour nous en fait c'est beaucoup. Voilà.
C'est bien la sensibilité humaine qui fait la différence. Un mot sur MJ Conciergerie et Richard, évidemment, des questions derrière.
Alors, moi si vous voulez, du coup
il veut d'abord répondre.
Oui,
je t'en prie.
Je voudrais parler à Conciergerie. Bon,
je t'en prie, justement, voilà. On y vient, mon cher.
Alors, d'abord, on apprécie votre parcours et votre expérience.
Merci.
Et voilà, c'est très important. Et puis alors, j'ai entendu parler pour la première fois de conciergerie, je ne savais pas ce que c'était, donc j'ai quand même fouillé pour savoir ce que c'était. Hein, donc c'est un service d'assistance personnalisée, si j'ai bien compris. Et alors, je vais dire ce que c'est, parce qu'en fait, une conciergerie est un service d'assistance personnalisée qui prend en charge vos tâches quotidiennes, c'est ça ?
Oui, c'est ça.
Je ne me trompe pas ?
Non, vous ne vous trompez pas.
Et exceptionnel, vous permettant ainsi de gagner du temps et de simplifier votre vie. Voilà un petit peu, en deux mots, ce qu'est la conciergerie, mais vous pouvez peut-être en dire plus, et notamment sur ce que vous avez, je crois, un peu créé.
Oui, en fait, j'ai eu en 2022 un accident de voiture. Donc j'ai été en arrêt maladie.
Qui est un tournant, sans faire de jeu de mots, mais qui est un tournant aussi de votre vie, sur un changement de vie aussi.
Un changement de vie, voilà. Oui. Et j'avais ouvert un mois ou un mois et demi auparavant, un Airbnb. Perso, hein, moi. Et de là, j'ai commencé à me remettre en question, parce que j'ai vite compris que je ne pourrais plus exercer mon activité parce que j'ai perdu la mobilité de mon bras. Enfin, bref. J'ai commencé à repenser, repenser mes priorités, à me reconnecter. À prendre aussi soin de moi, me soigner, mais en même temps c'était compliqué parce qu'il fallait bien évidemment que je m'oriente professionnellement vers un autre chemin. Donc j'ai ouvert la conciergerie. La conciergerie, en fait, c'est des propriétaires d'Airbnb qui viennent à moi et qui me confient leurs biens. En fait, c'est des locations saisonnières.
Oui.
Donc en fait, là j'ai le mien, plus des biens qui sont à des propriétaires. Et moi, je l'organise, les arrivées, les départs des voyageurs, l'intendance de la maison, les ménages, les accueils, les départs, les situations des fois qui sont particulières. Et voilà.
Le vôtre est où, alors, en fait ?
Le mien est dans le 8e arrondissement.
D'accord.
Et puis j'en ai 7 autres.
Alors,
maintenant.
Parlez-nous de cet établissement, par exemple, en premier. Il est dans le 8e.
Il est dans le
8e. Vous avez quoi, une structure adaptée ?
J'ai un local à mon domicile.
Oui.
Une grande buanderie où j'effectue tout le nettoyage, buanderie, les serviettes, les draps. Voilà, c'est tout l'organisationnel qui est dans ce local.
Et au-delà de ça, donc, vous avez des établissements ponctuels.
J'ai des biens qui me sont attribués, enfin les propriétaires, j'y signe des contrats avec eux sur un an, qui sont renouvelables tous les ans, et du coup je m'occupe de leur propriété ou de leur appartement. Alors ça va, là j'ai 2 studios, j'ai un appartement T3 au bord de mer, j'ai un appartement à Cassis. Et j'ai la chance d'avoir, enfin je suis responsable d'un mas provençal du XVIIe siècle. À Gémenos.
Voilà. Alors ça, c'était pour le volet, pour expliquer aussi cette connexion avec la conciergerie. On va, et c'est extrêmement intéressant, et vous en avez tiré profit, mais c'est beaucoup de travail. On rappelle, c'est des compétences, c'est pas parce que tout à l'heure, vous évoquiez le côté Airbnb. Nous, on n'est pas là pour faire la promotion de l'immobilier et du Airbnb, c'était pour évoquer... Il y a plus sur les services qui sont attachés à ça. Et si vous voulez vous y rendre, auditrice, auditeur, vous tapez MJ Conciergerie. Il y a davantage d'éléments, mais c'est important ce que tu dis, Richard, parce que certains peuvent ignorer un petit peu quel était le processus, le procédé.
De la conciergerie, oui.
Et là, vous l'avez bien éclairé. On revient 9h sur les ondes de Radio Galère. Vous voyez, ça fait déjà un quart d'heure qu'on est à l'antenne. Je le rappelle, sur les ondes du 88.4 de la bande FM, www.radiogalère.org. Et on a reçu un appel. Je remercie... Olivier qui a composé le 04 91 08 28 10 et qui nous demande tout à l'heure, vous évoquiez le volet du handicap chez les jeunes, ça se passe comment? Est-ce que, il m'a dit tout simplement, est-ce que vous parlez de des écoles? Alors justement, j'en ai parlé en off tout à l'heure avec Marion Camus qui est avec nous, chef de service éducatif UNAPI, un mot, et c'est important puisque nous on a dit l'UNAPI comme si tout le monde connaissait l'UNAPI, certains connaissent ce que représente cette institution, mais pas tout le monde. Est-ce que vous pouvez, dans un premier temps, nous éclairer que veut dire une API et quel est le mode de fonctionnement, Marion? Merci à Olivier d'avoir appelé au standard.
Oui, alors bien sûr, l'UNAPI, c'est une association de parents qui a vu le jour, qui s'appelait initialement la Chrysalide. C'était des parents qui se sont réunis pour créer une association pour leurs enfants qui étaient en situation de handicap mental. Et ensuite, cette association a fusionné avec l'ADAPI et donc maintenant nous sommes l'UNAPI et l'association a plusieurs établissements et services, je crois 62 il me semble pour être précise, entre le 13, le 04 et le 05.
Ouais, donc c'est
et quand vous même, faites quoi au niveau de cette organisation?
Moi-même ou l'association?
Vous.
Moi, je suis chef de service, donc j'accompagne les personnes, enfin on va dire je chapeaute un petit peu l'accompagnement des personnes et je manage l'équipe éducative.
Vous avez beaucoup de personnel?
Oui, dans le service dans lequel je travaille, c'est ce qu'on appelle un SAMSA, un service d'accompagnement médico-social pour adultes en situation de handicap. Ce sont des personnes en fait qui vivent au domicile pour plusieurs raisons.
Qui ont une certaine autonomie, certains peuvent avoir une autonomie, d'autres
alors,
en moins.
Oui, certaines personnes peuvent vivre seules d'ailleurs, et d'autres non parce qu'ils n'ont pas l'autonomie suffisante pour vivre seules et donc vivent chez leurs parents, accompagnés de leurs parents ou des fois de leurs frères, de leurs sœurs, de leurs proches. Et certains souhaitent vivre à domicile, maintenir ce vécu à domicile. Et nous, en fait, on est là pour les accompagner dans les acquis, pour trouver des ressources qui pourraient leur permettre de garantir leur maintien à domicile. Et d'autres personnes, en fait, qui sont à domicile avec leurs parents, bien souvent, eux, on est plus sur des recherches de structures ou d'accueil de jour pour qu'ils puissent être un petit peu occupés la journée.
Juste un mot sur l'UNAPI. Vous avez... auditrice, auditeur, et vous faites www.unapi.org. Ce sont des structures qui ont vocation à faire un excellent travail et à aider les autres, évidemment. Vous pouvez faire des dons. UNAPI, on dit s'engager pour le vivre ensemble. C'est un peu ça qui vous caractérise. J'ai vu qu'il y avait notamment, vous avez tout un réseau, d'établissements de réseau, d'associations pour trouver les contacts, justement, et pour fédérer. C'est aussi ça, le réseau, la force associative. On parle de scolarité, tout à l'heure, Olivier l'évoquait. C'est un vecteur qui existe chez vous pour développer ça?
Oui, complètement. Les partenariats, notamment, l'inclusion, le travail sur l'inclusion, notamment plus dans le, par exemple, la scolarité, dans le secteur de l'enfance.
Qui est
Sandrine,
quand même très importante.
Oui, complètement. Et nous, après, dans le secteur adulte, on est plus... c'est un peu parallèle à la scolarité quand on est enfant, mais sur le secteur adulte, on est plus sur du partenariat où peut-être on va accompagner des personnes en situation de handicap pour travailler dans ce qu'on appelle le milieu ordinaire. Donc les intégrer dans la vie de tous les jours. Et il y a des personnes qu'on accompagne qui vont travailler, qui travaillent d'ailleurs pour Airbus dans des établissements d'aide par le travail, ce qu'on appelle des ESAT, anciennement ce qu'on appelait des CAT. Et il y en a d'autres qui travaillent en rayon à Carrefour, par exemple, voilà, qui ont des contrats adaptés, ce qu'on appelle
ça. Oui. D'ailleurs, c'était aussi une volonté politique à un moment donné qui a été un petit peu enrayée, évincée, où on disait que justement, on parlait à l'époque du tutorat, on parlait aussi de transmettre et de pouvoir. Certaines entreprises étaient pénalisées à juste raison parce qu'elles n'avaient pas le pourcentage de personnes en situation de handicap. Et la meilleure façon de pouvoir de s'épanouir, c'est de les inclure. Alors évidemment, je suppose, et on est tous conscients que certains peuvent atteindre des objectifs de compétences, d'autres non, mais il faut les valoriser, il faut développer, il faut les sensibiliser, et puis il faut les inclure et leur donner confiance. Je suppose que c'est ça aussi le moteur. Je m'adresse à vous deux, Marion, l'UNAPI, et évidemment Sandrine, qui connaît très très bien la maison.
Oui, oui, tout à fait. Il faut les accompagner, et il faut aussi accompagner les personnes qui travaillent en milieu ordinaire et qui, oui, pour la plupart, n'ont pas forcément connaissance du handicap, ou en tout cas, ça peut effrayer. Ça peut aussi, des fois, être un frein dans l'accompagnement. Voilà. Nous, des fois, on cherche
dans la communication, ou dans
complètement.
La gestion humaine aussi.
Oui. Nous, on cherche là actuellement dans notre service des moyens de proposer des activités ou des loisirs aux personnes qui vivent à domicile. Et c'est difficile de trouver des lieux adaptés parce qu'il y en a de moins en moins et les places sont de plus en plus convoitées.
Oui.
Et donc, on essaye de s'ouvrir vers, par exemple, des maisons pour tous ou des maisons de quartier.
Oui.
Sauf que, ben, du coup, ces maisons-là, il faut aussi qu'on aille les rencontrer, qu'on rencontre les responsables, les éducateurs qui y sont présents, pour pouvoir les sensibiliser au handicap.
D'ailleurs, j'en profite, on salue, on reçoit 2-3 fois par an Christophe, qui est le directeur de la Maison pour tous du 3e arrondissement et qui présente ses projets à l'antenne, et notamment sur l'inclusion, la précarité, les jeunes. Et on avait même évoqué avec lui une fois le handicap. Et je pense que ça a vocation quand même à se développer. Sandrine, un mot là-dessus, puis ensuite on parlera de l'Insta Agapé, on parlera du projet d'accueil qui est sous-jacent, mais qui aura vocation justement, oui, à aider ces personnes en situation d'handicap. Sandrine
Mota. J'ai beaucoup accompagné des enfants et des jeunes adultes et des adultes. Et c'est vrai que l'intégration est hyper importante parce que ça les ouvre au monde, ça les ouvre à l'extérieur, aux rencontres, en séjour vacances. Nous, c'était notre... Tu vois de quoi je vais parler. C'était notre combat parce qu'on avait été accueillis depuis... On était accueillis depuis des années dans un centre. Et puis nous, le principal aussi, c'était comment étaient accueillies nos personnes en situation de handicap.
Comment elles étaient perçues,
comment elles étaient accueillies, comment elles étaient accueillies dans les restaurants, accueillies. Et on a toujours été très vigilantes, toutes les deux. Je ne rentrerai pas dans le détail, mais il y a une année où ça s'était moyennement passé.
On le comprend.
Et ça s'était moyennement passé. On a fait le nécessaire, en tout cas, pour que ça ne se reproduise pas. Parce que ce n'est pas parce qu'une personne n'a pas l'acquisition du langage ou qui est en situation d'handicap que les émotions et le regard des autres n'est pas important pour eux. Et nous, notre combat, c'était avec Marion et avec d'autres professionnels avec qui j'ai travaillé. C'est ça, au quotidien aussi.
Bah, c'est tout à votre honneur. Richard, je t'en prie. 9h07, j'ai juste reçu un message où on me dit gentiment big up à Radio Galère de parler encore du handicap, mais pas que. Merci à Samy d'envoyer ce message. On a à cœur de le faire, on le fait de plus en plus et ça paraît totalement légitime, mais c'est grâce à ces personnes-là aussi qu'on peut le développer à l'antenne sur les ondes de Radio Galère. Richard, je t'en prie.
Alors, moi, j'ai relevé que... Une chose qui me paraît très importante, c'est le regard des gens. Alors, je vais vous dire une chose. Ces gens sont comme vous et comme moi. On peut les critiquer, on peut rire avec eux. Ce sont des gens qui comprennent très facilement. Ils ne comprennent pas, par contre, un regard fuyant. Voilà. Alors, regardez-les bien en face. Et puis, voyez que, comme vous avez dit, ils ont des sensibilités, etc. Et puis pour les parents, bon, moi j'ai un cas de ma famille avec une trisomie de naissance, avec donc une évolution qui aujourd'hui fait que elle joue de l'accordéon, elle a son brevet de natation et de plongée, etc., etc. Et donc aujourd'hui, elle est pleinement épanouie. Alors bien entendu, il y a toujours malheureusement un handicap de départ, mais qui s'est gommé. Et donc à tous les gens qui écoutent, ayez confiance et puis aller avec, avec eux pour qu'il y ait des personnes comme vous qui faites un travail formidable, mais les parents aussi, la famille aussi, qui bien souvent se détournent les yeux. Hein.
Oui, tout à fait. Mais après, il faut aussi dire aux auditeurs... c'est pas grave d'être impressionné, c'est pas grave d'être des fois choqué ou c'est pas grave, mais il suffit d'en parler, il suffit de le dire. Nous, éducateurs, on est là pour ça aussi. Les personnes, quand elles sont dans des structures en milieu ordinaire, comme on appelle, il y a toujours des éducateurs qui sont là pour accompagner. S'ils sont pas là, on peut les... Ils sont toujours disponibles, en tout cas. C'est pas grave de dire, ben, en fait, ça me gêne, je sais pas comment faire, comment je peux faire. Et puis après, c'est aussi rentrer en lien et puis faire connaissance. Parce que quand on se connaît pas, c'est toujours un peu délicat. Nous, on se connaît pas, c'est délicat de rentrer en lien au départ. Mais c'est pareil.
Évidemment.
Alors, est-ce que vous avez une relation de travail toujours maintenant, ou alors chacune a pris une orientation un peu différente? Et parlez-nous en fait de Gémenos, s'il vous plaît.
Exactement, de l'Instar Agapella. La tradition est toute faite, il est 9h10, il nous reste un petit quart d'heure sur les ondes du 88.4. On est en direct, on parle de l'UNAPI, mais on parle aussi évidemment tout ce qui concerne, qui gravite autour de Sandrine Mota, à savoir notamment aussi le bien-être dédié aux femmes, parce que vous êtes multicarte, même si la sensibilité humaine...
Oui. Oui, mais on se défait jamais trop de... Enfin, je vais y revenir là, mais en fait, j'ai eu mon accident en 2022, j'ai un Airbnb, je monte la conciergerie et j'ai la chance d'avoir dans mon portefeuille, il est bien là, un mas à Gémenos du XVIIe siècle avec 12 couchages et un super terrain et la piscine et j'ai beaucoup de chance, voilà.
Et du coup, vous avez voulu le dédier notamment au bien-être des femmes, il y a eu des organisations de journée. Alors,
avec une amie, on avait participé nous-mêmes à des moments de bien-être femme en faisant du yoga, en faisant des activités. Et de par sa configuration, sa capacité d'accueil, on s'est dit, en fait, il se prête à ça. En plus, c'est la masse du XVIIe siècle, donc évidemment, vivant, il y a quelque chose de particulier.
Il y a un cachet.
Alors... Bon, quand vous parliez d'énergie tout à l'heure, moi, en tout cas... Après mon accident, on parlait toujours de la résilience. La résilience, oui, c'est bien, c'est un joli mot, mais bon, c'est quand même, c'est pas qu'un mot. Il faut avoir il y a de l'énergie dans ce mot, et c'est cette énergie-là que je suis allée chercher. C'est pas facile. J'ai été aidée, accompagnée, ça aussi, il faut le dire. Les gens, c'est pas un souci d'aller voir, consulter, se faire accompagner. Parce que j'étais à l'arrêt complet, je perdais de la mobilité de mon bras.
Et au-delà de ça, j'imagine un peu la sensibilité de votre vie, parce que quand on est voué pendant des années à travailler dans ce milieu-là et qu'au final on vous dit vous pouvez plus travailler alors que le cœur y était, il y a aussi sur la...
C'est compliqué.
La dimension psychologique, il faut le dire, il y a presque potentiellement de la dépression.
Oui, il y a en tout cas une grosse angoisse, et puis de s'arrêter complètement, moi qui suis très active, c'était très compliqué. Mais ça m'a permis aussi, en étant obligée d'être à l'arrêt, en fait, c'est comme si on m'avait dit, tu n'as pas su t'arrêter seule, donc là maintenant, t'y assise, assieds-toi, arrête-toi, tais-toi et réfléchis. Et il y a plein de choses aussi que j'ai travaillées, qui sont ressorties, qui ont été très dures, mais qui sont positives. Et dans ce mas, donc, on s'est dit, il va falloir qu'on fasse des journées bien-être, donc avec une amie.
Exclusivement pour les femmes, on le rappelle ?
On a dit journée femme, mais pourquoi ?
Ça veut dire qu'on n'est pas exclu finalement.
Mais non.
Très bien.
On s'est dit,
l'homme aussi a droit au bien-être quand même.
Exactement.
On
mais on s'est dit, on est parti là-dessus en disant c'est des journées femmes. Alors au début on avait dit c'est des journées femmes pour se reconnecter. Alors il y a eu on a fait plusieurs journées, mais par exemple notre première journée, il y avait une dame qui venait de prendre la retraite et qui avait besoin aussi de se recentrer et de retrouver un peu son côté féminin et de retrouver pour plein de raisons diverses. Il y avait une future maman, il y avait des nouvelles mamans.
J'en profite, Sandrine, on est sur le mois d'octobre rose. Nous, il y a 15 jours, on a reçu une association pour parler notamment du cancer du sein, et on a fait une matinale qui était évidemment ciblée là-dessus. Vous êtes aussi sensibilisé, parce que vous l'évoquiez tout à l'heure, vous avez dit les femmes enceintes, certes, mais des femmes aussi qui ont été fragilisées, des femmes qui ont...
Oui.
Voilà, et ça, je sais qu'on l'a évoqué en off tout à l'heure avec vous et avec Marion également, mais Octobre Rose, ça a du sens
Octobre
aussi.
Octobre Rose, ça a du sens, mais... tant professionnellement que personnellement.
Je comprends. Je comprends. Mmh. Bon, on sent l'émotion, évidemment, voilà. qui vous incombe.
C'est une histoire aussi personnelle.
Alors moi, je félicite quand même les femmes, parce que c'est bien que vous fassiez les trucs des femmes, parce que je trouve que les hommes sont beaucoup moins dynamiques. Vous voyez, je suis un homme, et ça me paraît toujours bizarre de voir aujourd'hui l'évolution des femmes et le retrait des hommes dans l'intellectuel. Alors, c'est vrai que je m'adresse aussi aux hommes en disant... Mais faites des trucs comme les femmes, montez des trucs pour vous, il n'y en a pas. À ma connaissance, il n'y en a pas.
Il y en a très peu, oui.
J'ai une jeune femme que je suis sur les réseaux qui a monté des voyages organisés que pour les femmes. Ça s'appelle Femmes en Vadrouille. Et du coup, il y avait tellement d'hommes qui disaient oui, bah alors, son mari. À monter aussi Homme en Vadrouille.
Bah écoutez,
voilà, bravo. Voilà. Et c'est rare, hein, il faut le dire. Bon.
Non, mais c'est important de le rappeler, voilà. Parce que vous parlez des journées bien-être, le retour à soi, il y a eu des journées qui ont eu lieu. Est-ce qu'on a la prochaine journée? Est-ce qu'elle est déjà ciblée?
Alors, la prochaine journée, il va y en avoir une au mois de novembre, qu'on est en train. Il faut qu'on trouve, parce qu'en fait, cette journée, on met à disposition le MAS. À midi, et il y a un super buffet. Le matin, le petit-déj. La midi, le super buffet. À 4 heures, la collation. Mais entre-temps, il y a un roulement. Et donc, la première journée, par exemple, il y a eu un professeur de yoga qui a fait le réveil matinal après le petit-déj. Après, il y avait une dame qui faisait des massages, soit ayurvédique, soit les cobidos, soit le visage. On a eu la chance d'avoir cette journée-là deux messieurs fantastiques qui font de l'énergétique et de la voyance.
Deux messieurs, vous avez dit, hein?
Oui.
Ça, c'est important
de le rappeler. Deux messieurs qui sont venus et qui sont maintenant devenus des amis. Vont pour les retrouver sur les réseaux sociaux, de même voyance.
Vous pouvez les nommer.
Et je les embrasse parce qu'ils sont extra. Alors, on débutait avec le yoga. Il y avait toutes les activités, le repas. Alors, après, ça a été tout de suite très, très convivial à midi. Enfin, on avait l'impression qu'elles se connaissaient toutes et qu'elles étaient toutes... elles avaient de différents milieux, des âges différents, mais c'est extra. Et ça a fini par une méditation... à l'arrière du mas, on avait pendu plein de breloques, tout ça, ça faisait, on avait appelé ça le jardin des fées, c'était trop chouette, c'était trop beau.
Et d'ailleurs, c'est une fée qui est, c'est le symbole, non, de votre l'instant agapé. Tout à l'heure, on m'a demandé, j'ai oublié, qu'est-ce que ça veut dire l'instant agapé?
Alors, agapé, on le retrouve dans un livre de Modankawa. L'agapé, elle explique qu'il y a plusieurs façons d'aimer. Dans la vie, le philia, l'éros, c'est l'érotique et tout ça, et ça finit par l'agapé. L'agapé, c'est l'amour divin, l'amour absolu. Nous, on est parti de la réflexion de se dire que l'amour absolu, c'est très chouette, mais on essaye d'amener ces femmes-là pour que l'amour absolu, ça soit l'amour de soi. Et je pense que c'est un vaste challenge. Que c'est compliqué d'en arriver là, de s'aimer soi-même et de prendre soin, et de, surtout pour une femme, de par son travail, de par sa position de femme, de mère, d'époux, c'est compliqué de penser à soi.
Alors, dans ces journées, donc, y a des personnes qui viennent, bien entendu. Est-ce que c'est payant? Est-ce que c'est... Comment ça se passe? Bon, moi, par exemple, il y a une personne, une femme, qui veut venir passer la journée. Bon, alors, elle va où? Il y a un site, vous avez quoi?
Oui, sur l'instant agapé, c'est tout attaché, sans accent, sur Instagram. Elle peut nous contacter en message privé, voir l'actualité, Tout à l'heure, Anthony nous disait ce qu'il y a encore des journées. Alors, pour le moment, on est en attente de réponse avec les partenaires avec qui on va travailler. Certainement, il y aura une journée en plein hiver avec le feu de cheminée, au coin de la cheminée, qui n'aura pas du tout la thématique du printemps et de l'été, bien sûr. Et après, au printemps, on réattaquera parce qu'il y a une piscine.
Mais ce sont des journées payantes pour les femmes. Alors, est-ce qu'on a une idée quand même du prix que ça peut demander?
Ça dépend des journées et surtout des partenaires et des activités mises en place. Mais la journée entière avec le repas, le petit déjeuner et les différents partenaires, parce qu'il faut, ça fait plusieurs activités dans la journée, parce qu'il y a quand même une demi-heure de soins, par exemple une demi-heure de massage, une heure de yoga le matin, une demi-heure de massage, une demi-heure avec le monsieur qui fait de l'énergétique, et après le monsieur qui fait de la voyance. Et cette journée-là était à 195 euros.
D'accord.
La journée, et voilà.
Ben oui, ben ça va être que les personnes qui écoutent sachent un peu ce que c'est.
Ça va être
donc vous avez une journée complète.
Une journée type, c'est un package, oui, une journée type. Ouais.
C'est normal que ce prix est tout à fait justifié vu compte tenu des prestations que
ben, il y a un massage, il y a un cours de yoga, il y a de la méditation. Ça commence à 9h le matin jusqu'à 18h. Et après, on finit par l'apéro, parce que l'apéro, c'est bien quand même aussi.
Alors, évidemment, mais attention, on est en radio, consomme avec modération.
On se
fasse taper sur les doigts par l'ARCOM. Mais vous avez raison, mais avec modération.
Avec modération.
On a le droit de
alors,
dire.
Il vous faut combien à peu près de personnes pour cette journée? Vous avez une jauge à combien là?
On peut aller jusqu'à 12.
12 personnes.
12 personnes.
Ouais, 12, entre en fait 12, 15 maximum, parce qu'après.
Donc de tous âges, peu importe, avec les différences des unes et des autres, ça n'a pas d'importance.
Aucune importance. Au contraire.
C'est en fait la richesse, justement, de mélanger.
Et justement, je fais ta transition, mon cher Richard, puisqu'il nous reste 4 minutes sur les ondes de Radio Galère pour conclure. Justement, et toujours avec Sandrine Mota et Marion Camus, chef du service éducatif UNAPI, on peut parler aussi du projet d'accueil sous-jacent pour les personnes en situation d'handicap que vous souhaitez monter, notamment en corrélation avec Marion et avec l'UNAPI.
L'UNAPI en général et Marion en particulier. Mais
on a 4-5 minutes, je vous en prie, pour boucler sur ça parce que c'est quand même important.
Et bien du coup, on se défait jamais.
Voilà.
On se défait, enfin moi en tout cas je ne peux pas, donc on se défait jamais du milieu dans lequel moi j'ai évolué, du milieu du handicap. Donc ce MAS est vraiment de par la capacité d'accueil et la constitution.
Moi j'ai vu les photos, j'espère voir de visu un jour Miram.
Avec plaisir,
j'ai vu les photos. C'est tout simplement magnifique.
Et d'ailleurs,
petite histoire, je préfère les. Ça, c'est mon côté découverte, mais je préfère aller faire un masque, enfin, en tout cas, passer un week-end dans un masque que dans un hôtel 5 étoiles. Mais bon, ça engendre comment? Ça ne veut pas dire que le masque, on imagine que le confort est bien présent, mais le masque, il y a du cachet et on n'est pas obligé d'avoir quelque chose qui est toujours moderne.
Il a un vécu.
Et un vécu, exactement. Voilà.
On ne se défait jamais, donc moi, je n'arrive pas à me défaire de ça. Et alors, en ce moment, je suis en train d'écrire et de monter un projet pour en fait recevoir les personnes. En situation d'handicap, je vais le présenter donc à l'UNAPI. Alors pour le moment c'est au conditionnel parce que bien évidemment il faut des agréments, bien évidemment il faut des autorisations.
Sur l'année 2026, on peut dire.
J'espère.
On peut évoquer ça.
J'espère.
Comme ça.
Et ce serait pour des courts séjours ou longs, hein, pourquoi pas. Mais on va partir certainement sur des courts séjours pour les personnes qui vivent en institution. C'est hyper important de retrouver une ambiance conviviale, une ambiance familiale, une ambiance, parce que l'institution, il faut savoir que ces personnes, c'est compliqué de vivre en institution, d'être toujours entourée, être toujours. Alors pour le moment, je suis en train d'écrire ce projet. J'en ai parlé à Marion qui me soutient et je ne sais pas encore si ça sera un package, si ça sera avec des activités aussi proposées ou si ce sera que la location de ce lieu. Je suis en train d'y travailler, mais je vais y travailler activement parce que ça me tient beaucoup à cœur et Marion m'encourage. Donc c'est Marion qui va, parce que les personnes aussi, je pense que ça va être chouette.
Et Marion, justement, votre avis là-dessus?
Moi, je trouve que c'est une super idée et puis ça lui correspond tout à fait. Et surtout, en fait, on a bien vu lorsqu'on est parti avec eux en ce qu'on appelait les séjours vacances qui ont lieu chaque année que l'UNAPI Alpes-Provence organise. Et on voit en fait l'attirance qu'ont les personnes pour ces moments-là, l'impatience aussi à partir du moment où on leur dit ça y est, faut choisir la destination, vous pouvez vous inscrire. Ils ne parlent que de ça pendant les semaines, voire les mois qui précèdent les séjours. Et c'est pareil en fait quand des fois on organise ce qu'on appelle des transferts, donc des petits séjours de quelques jours aux alentours ou même des fois dans d'autres lieux de la France.
Ne serait-ce que de changer d'environnement, c'est aussi ça qui permet l'épanouissement.
Ils aiment tellement ça, c'est tellement des bouffées d'air pour eux de découvrir autre chose, de partir un petit peu ce qu'ils appellent en vacances. Et je pense que ça va toucher un large public et des personnes, beaucoup de personnes pourraient être
Et est-ce que ça peut être justement ces personnes qui sont en situation de handicap, c'est des personnes avec lesquelles vous avez l'habitude de travailler ou au final ça serait un public, je dis une bêtise, des parents, de la famille qui vous diraient, vous savez, moi j'ai mon enfant qui est en situation de handicap et j'ai envie de passer un week-end au Mas Provençal, où il faudra le côté un peu institutionnel.
Non, je pense que ça, à mon avis, ça pourrait concerner tout le monde. Ouais.
Parce que par exemple, moi, dans mon Airbnb personnel, le mien, pas ceux des propriétaires, quand je l'ai fait construire et j'ai fait les travaux, j'ai fait toutes les dimensions pour les passages de
PMR.
Oui, pour les passages, pour les passages et les pentes et voilà. J'ai eu la chance, mais une chance, d'être contactée par des parents avec une petite fille qui était en situation de handicap dans un fauteuil électrique, donc c'est très lourd, c'est très large, c'est très, et elle a passé de super vacances chez moi.
Génial.
Et là honnêtement c'était ma récompense.
Ça c'est votre récompense.
Bon, c'est bien d'apporter de la joie parce qu'effectivement quand ces personnes sont toute l'année au même endroit, ça devient lassant, etc. Et puis ces bouffées d'oxygène sont absolument nécessaires dans leur vie, dans la vie de tout le, en fait dans la vie de tout le monde, hein. Et ce sont des gens, encore une fois, comme tout le monde. Et ça, il faut que les gens le comprennent et les voient comme des personnes normales qui peuvent engueuler, qui peuvent. Mais c'est pas grave, ça. Au contraire, c'est la vie.
Mais au plus, au plus il y aura d'intégration, au plus les gens auront un autre regard.
Voilà, exactement. C'est justement une barrière que chacun se fixe qui est pas bonne, quoi. Parce qu'il n'y a pas de barrière. On voit aujourd'hui quand même des gens de handicap aux Jeux Olympiques qui font des prouesses. Il n'y a aucune raison que les gens du peuple, en fait, comme nous, si vous voulez, n'aient pas le même regard normal. Voilà.
Exactement.
Ouais. Mais c'est en train d'évoluer quand même, je trouve.
J'espère.
C'est bien. Ça se démocratise.
C'est positif.
De plus en plus. On a dépassé de 2 minutes. Je voulais juste le dernier mot, mesdames, pour conclure. Mais vraiment, en 30 secondes, en tout cas, nous, merci 1000 fois d'avoir accepté l'invitation. Moi, je m'engage auprès de la radio à conserver, en tout cas, cette connexion et à vous recevoir au cours de l'année 2-3 fois par an pour faire le point sur ces projets. Et là, je m'adresse vraiment sur le projet ciblé, sur le porteur, sur les personnes en situation de handicap. Vous êtes les bienvenus pour informer, éclairer, susciter, développer. Vous êtes les bienvenus
Merci.
Sur les ondes de Radio Galère. Un dernier mot en quelques secondes, Sandrine et Marion.
Alors, un dernier mot, je vous remercie de nous avoir reçus. Et ben, le dernier mot, c'est je prends l'invitation. Je prends l'invitation, je reviendrai.
Avec grand plaisir.
Merci.
Merci à vous, Sandrine. Marion, merci.
Marion.
Merci à vous.
Ben, un grand plaisir. Et puis, saluer, en tout cas, on encourage une API à poursuivre ce travail. C'est un travail de qualité. Et n'hésitez pas à venir, Marion, lorsqu'il y a aussi un lien ou une connexion ou un événement, une actualité, nous dire on présente ce projet-là à l'UNAPI, j'ai envie d'en parler avec telle ou telle personne, vous venez à deux et on parle de ça, on y est évidemment sensible. Pause musicale sur les ondes de Radio Galère, Zaz, je veux, mais moi je veux de la qualité, ben, la qualité c'est avec Jérémy Béchon, notre poète, metteur en scène et aujourd'hui casquette d'écrivain, L'éclat des fracas aux éditions Quiero, il est avec nous dans 3 minutes.
Quiero,
on peut le dire à l'espagnol. Merci,
merci.
Au plaisir de vous revoir.
Merci.
Et bonne journée. Allez, on revient juste après cette pause musicale.
Donne-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas. Des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas d'autres. j'en ai marre de vos bonnes manières, c'est trop pour moi. Moi je mange avec les mains et je suis comme ça. Je parle fort et je suis franche, excusez-moi.
Radio Galère 88.4, 9h32 sur les ondes de Radio Galère. On est en direct pour l'actualité locale, culturelle, consacrée ce matin à Jérémy Béchon, qu'on connaît très bien au sein de Radio Galère, mais pas que. Jérémy Béchon, metteur en scène, poète, auteur. Il est donc auteur et écrivain. Il va nous parler de ce livre, L'éclat des fracas, qui est sorti aux éditions Kéro. Richard me disait, ça c'est normal, c'est son appétence pour l'Espagne qui me disait de dire quiero, mais on va rester peut-être français, on dira quiero, enfin bref, peu importe.
Si nous quiero, c'est igual. Hein.
Voilà, toujours est-il qu'on a le plaisir de recevoir du talent, et le talent, c'est Jérémy Béchon qui est avec nous. Bonjour à toi, Jérémy.
Bonjour.
Alors, autant pour moi, Jérémy, le micro n'était pas complètement ouvert. Bonjour à toi, Jérémy.
Alors, je le redis, bonjour.
Parfait. Merci d'être là. On te connaît à travers le collectif Manifesterien où tu es metteur en scène depuis, je crois, 20 ans, ça y est, j'ai lu ça quelque part.
Eh oui, ça y est maintenant.
Ça y est. Tu as fait tes 20 ans ou Non, on va dire que tu as passé 20 ans auprès du collectif manifestorien. Tu as créé ce collectif manifestorien avec Virginie Aymon, ta compagne qu'on salue évidemment. Aujourd'hui, on t'accueille en tant que, qu'écrivain. Un livre qui est sorti cet été, au mois d'août, L'éclat des fracas, 88 pages, qui relate les massacres de la société. Alors, on l'évoquait avec Richard, mais il y a un côté quand même obscur, un côté froid, implacable, mais réaliste aussi. Malgré tout, il y a peut-être toujours de l'espoir, et ça, c'est Jérémy Béchon qui va nous en parler. Dans un premier temps, avant de parler du bouquin, et de rentrer un petit peu à l'intérieur et nous expliquer un peu les inspirations. L'éclat des fracas, le titre est quand même évocateur.
Oui, ben c'est parce que c'est un roman qui est composé de fragments de vie et d'éclats de vie. Et tu parlais de la noirceur, c'est parce que ce sont des vies qui éclatent. Et l'éclat des fracas, parce que comme le photographe ou le peintre peut figer le fracas d'une vague qui percute la roche ou d'un verre d'eau qui éclate au sol. Moi, j'ai voulu capturer l'instant où les individus se brisent et se révèlent. Et cet instant-là, il peut arriver au travail, peut arriver chez soi à ne rien faire ou devant l'immensité de la mer comme à l'ombre d'une ruelle. Voilà, c'est cet instant-là d'éclat et de fragmentation que j'ai voulu réunir dans ce roman.
En tout cas, il y a évidemment beaucoup de talent, de pertinence et beaucoup de savoir. On va y rentrer. L'éclat des fracas, il est Kero Édition. Un mot là-dessus, cette connexion avec Kero Édition, hein, Jérémy?
Kero...
Ah voilà, il le dit en espagnol. Autant pour moi, Kero, je veux le dire.
Ça veut dire j'aime.
C'est ça.
J'aime, je veux, je prends.
Te quiero, je t'aime.
C'est une maison d'édition qui a été créée par Samuel Autexier, qui est éditeur depuis près de 30 ou 40 ans maintenant, qui travaillait aux éditions Agon dans la branche de la littérature chez eux.
Que tu as beaucoup connu à l'époque. Agon, tu avais une connexion avec Agon.
Voilà, moi j'avais publié un texte quand j'avais 19 ans chez eux, qui s'appelait Furoncle. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Samuel Autexier, qui s'intéresse depuis toujours à une littérature qui est en prise avec la réalité, davantage que ce qu'il trouve dans la production lambda, qu'il trouve bourgeoise, pour reprendre ses termes. Il s'est beaucoup intéressé aussi à la littérature prolétarienne, celle qui vient de Suède, qu'on connaît notamment avec Stig Dagerman,
oui,
qui est un des derniers représentants que d'ailleurs on a mis en scène au sein du collectif manifestorien.
Ouais, tu as adapté beaucoup de textes et adapté au théâtre. Enfin, Bourdieu, on le sait, Benjamin Stora, Tassaditi Yassine, j'en passe, Gérard Noirel, Dell'Umbria, ça je m'en rappelle, tu étais venu aussi pour en parler. Donc ça a toujours été quelque chose qui te caractérise et qui te passionne aussi, Jérémy.
Oui, d'ailleurs le collectif manifestorien, tu disais, ça a 20 ans d'existence, et ce texte-là, je l'ai écrit il y a 20 ans, justement, au moment où j'habitais dans le quartier du Panier, et qui était un quartier quand même désœuvré.
Oui.
Avec beaucoup de vie, mais également beaucoup de misère, beaucoup de précarité. Et c'est vrai que j'ai naturellement, comme beaucoup d'écrivains, décrit et voulu rendre compte de la réalité qui était la mienne au sein de ce quartier, ou moi-même en tant qu'individu, puisque je ne vivais pas du théâtre à l'époque.
Et c'est important de le rappeler. L'éclat des fracas, Kero Édition, il est annoncé comme... Et je cite, un livre de 88 pages, donc auditrice, auditeur, c'est quand même facile à lire, hein, ça vous prend 2 heures. Petit format, c'est une impression numérique avec des pages intérieures, avec une jaquette, on dit tout, de couverture imprimée en typographie sur carton gris. Je pense qu'il y a aussi un côté écologique sur lequel tu es attaché, mais c'est quand même important de le rappeler. 88 pages, L'éclat des fracas. 15 €, donc c'est évidemment très accessible. C'est paru depuis 2 mois, le mois d'août. Comment on peut résumer, souvent on évoque le côté un peu architectural de la chose en disant le synopsis, on a tel et tel thème. Comment on peut identifier l'éclat des fracas, Jérémy? Pourquoi il faut le lire?
Ben, pourquoi il faut le lire ? Ça, ce sera aux lecteurs et aux lectrices de le dire. Mais il s'agit, j'ai essayé de pénétrer l'intimité des personnages, des personnages qui sont liés entre eux sans se connaître, qui peuvent être liés par un même immeuble, une soirée, un chien, dans la première partie. Puis ensuite, dans la deuxième partie, j'ai essayé de lier ça non plus par un truchement narratif, mais par une émotion, un même ressentiment, une même colère, une rage. Et puis enfin, dans la troisième partie, les personnages sont davantage dissolus, absents, satellitaires, à travers un seul personnage qu'on suit, qui creuse une tranchée au pied de la Sainte-Victoire, de sa face la plus raide et de sa face la plus sombre, et bien loin des expositions de Cézanne à Aix-en-Provence qu'on voit aujourd'hui.
Alors évidemment, vous écoutez Jérémy Béchon, on est toujours captivé par ses propos. Au-delà de l'art oratoire qu'il maîtrise, il y a une vraie plume. Notre chroniqueur, Robin Delobel, qui ne peut plus être avec nous puisqu'il est parti en formation, et je le salue, il avait vraiment à cœur d'être là ce matin puisqu'il a beaucoup aimé le livre. Il aura l'occasion de refaire une interview avec Jérémy prochainement. Un mot là-dessus avec Richard. On évoquait un peu le côté obscur, mais le côté aussi réaliste. Voilà, pour vous donner, moi j'ai trouvé intéressant, c'est qu'il y a Érudition qui l'a choisi. Je cite, « Seul le soleil et le vent pouvaient exister sans renoncer chaque lundi un peu plus à eux-mêmes. » Voilà, ça c'est ce qu'a écrit Jérémy. Tout à l'heure, il parlait de l'émotion, des liens entre les protagonistes, comme tu les appelles. Voilà, c'est... Il y a cet environnement urbain, il y a ce côté qui te caractérise. Richard, des questions pour Jérémy Béchon, pour l'éclat des fracas.
Alors, moi,
ça fait bien marseillais d'ailleurs, l'éclat des fracas.
Oui.
Alors, mais c'est ce double jeu, le fracas, l'éclat, et puis ensuite, effectivement, cette population qui est marginalisée. Même s'il n'y a pas que des marginaux dans cette pièce-là, parce que les personnages soient femmes de ménage, clochards ou cadres supérieurs, il s'agit de voir la perdition de ces gens-là dans une société qui est malade, mais où on reproche à ces gens-là, quand ils ne se le reprochent pas eux-mêmes, de dysfonctionner, alors que c'est le monde environnant, que c'est notamment la ville, mais surtout ce système-là, qui les rend absents à eux-mêmes et au monde.
Bien sûr. Richard, je t'en prie, mon ami.
Oui, moi j'ai noté deux éléments. D'abord, c'est que bien souvent, ça se rattache à un quartier, hein, puisque tous ces personnages-là cités... se trouvent bien souvent dans des quartiers relativement plus difficiles que d'autres, ou voilà. Et après, que chaque individu dans sa vie peut avoir une défaillance, et donc c'est bien exprimé par Jérémy au niveau de ces gens qui ont des vies, et puis d'un coup les briser ou les etc.
Donc les massacrés de la société, quand les intérimaires, les précaires, les chômeurs.
Oui, c'est là.
Et ça, c'est très bien.
Les massacrés de la société, merci. Ça a été la lecture de Samuel Autexier quand il a lu le livre, l'ébauche du livre, parce qu'il m'a beaucoup aidé à le retravailler, à l'épurer, et ça a beaucoup gagné à perdre des pages. Parce que le livre était beaucoup plus long et il a réussi à faire quelque chose.
Et c'était justement, je m'excuse, mais c'était ma question que j'avais oubliée. Te connaissant, moi j'imaginais, et je trouve que c'est très bien 88 pages, parce que pour la plupart ceux qui ne sont pas adeptes de la lecture, si ça commence à faire 150-200, ils disent c'est trop long, je ne lis pas. Mais bien que ça soit pertinent. Mais j'imagine que te connaissant, on était peut-être au double au départ, non ?
Il y avait un bon tiers de plus, il y avait plus de personnages.
Et ça va, tu l'as bien vécu cette réduction ? C'était quelque chose que tu voulais aussi pour le format ?
C'est vraiment venu du travail à la fois passionné et forcené de Samuel Autexier sur ce livre-là.
Tu peux rappeler qui est Samuel Autexier pour nos auditeurs ?
Qui est l'éditeur et le directeur de Kiero Édition,
voilà.
Qui est basé à Fort-Calquier.
Exactement. Coin très sympa, j'ai passé mes vacances cet été à Fort-Calquier, c'est juste... magnifique, Saint-Michel, l'Observatoire, il y a des trucs incroyables là-bas, c'est important de le rappeler, voilà.
Et puis on a eu la chance d'être reçus par la librairie La Carline à Fort-Calquier, que je remercie avec de très chaleureux retours de la part des libraires et une rencontre.
Je m'excuse pour cet aparté, mais c'était, on revient sur ce que disait Richard et sur les massacrés de la société, oui.
Oui, après, c'est un livre qui n'a pas rencontré encore tous ses lecteurs et lectrices, puisqu'il vient de, il vient à peine de sortir. Mais il y a eu d'autres lectures aussi de gens qui étaient paradoxalement frappés par la force des éléments, du soleil qui, quoi qu'il arrive, vient frapper, même si on n'a pas vu sur la mer, vient frapper les volets, vient frapper la roche, du mistral qui peut absolument tout nettoyer, même s'il aspire aussi parfois à inspirer une forme d'apocalypse où la ville elle-même pourrait être complètement ravagée. Mais de ces choses-là qui se croisent en permanence, que sont les éléments et les personnages. Voilà. Mais après, je pense que cette forme de personnage massacré tel qu'avait pouvoir Samuel Autexier, c'est aussi bien sûr une réalité du récit.
Est-ce qu'il y a une sorte de message subliminal, d'engagement citoyen, politique à travers la société? Alors, tu as parlé du mistral et du soleil, tu n'as pas parlé de la pluie, on y est bien aujourd'hui. Richard, on dit tout à Radio Galère, a été bien impacté ce matin et bien trempé. Non, mais voilà, pour revenir à ces traits-là, c'est quelque chose qui te caractérise, ça aussi?
Les éléments dans la ville, et la ville elle-même est un élément, eux n'ont pas besoin de connaître leur valeur ou leur rendement, parce qu'ils sont et ils existent le plus simplement du monde. Et même s'ils ne sont pas éternels, ils s'approchent pour nous de ce qui est le plus proche de l'éternité. Et les personnages qui se brisent dans la faille qu'occasionne leur douleur et leur perte momentanée sont liés à ces éléments, qu'ils soient naturels comme les collines ou la mer, ou qu'ils soient historiques et changeants comme la ville. Et ces personnages sont plus lucides à mon sens et plus translucides à eux-mêmes et aux lecteurs dans la crise qui les révèle. Ouais. Voilà, ils sont tous semblables dans une étrange communauté éclatée parce qu'ils ne croient plus à l'avenir, s'ils ont cru un jour, parce qu'ils ne croient plus à leur devenir social. Ils savent que demain ne sera pas un autre jour, mais un jour semblable à celui-ci. Voilà. Mais ils peuvent trouver... Enfin, c'est ce que j'ai vu en décrivant les personnages que je voyais tous les matins et le soir, et en me décrivant moi-même dans ces personnages-là. Ils peuvent trouver, même si ça passe par la confusion, par des symboles ou par des visions, des délires, par un langage corporel, ils peuvent trouver ce qui les oppresse et ce qui les libérerait peut-être. Mais ils ne peuvent pas poursuivre ces nouvelles voies qu'ils ont seulement entreaperçus, parce qu'ils n'en ont pas les moyens nécessaires, ni intellectuels, ni financiers. Ils n'arrivent pas à nommer, le paradoxe étant pour moi qu'ils restent libres par la même, par cette non-interprétation de la vie, par cette expérimentation directe de la vie, ni changer leurs conditions de vie, parce qu'elles sont limitées par leur classe sociale ou par leur assignation.
Oui. Donc ils sont catégorisés. Ouais, ils ont du mal à se...
À la fois, ils sont catégorisés et à la fois, ils échappent à cette catégorisation-là dans ce moment où tout bascule, mais où tout se reconstitue à l'identique parce qu'ils n'accèdent pas à une forme de révolution que prône la littérature prolétarienne comme Dagerman, comme Samuel Autexier dans sa maison d'édition, ou nous, chez Manifeste Rien dans le théâtre. Et ces personnages-là sont au cœur de ces conflits-là. Ils évoluent dans un monde qui dysfonctionne, comme je disais, dans un monde qui est malade, alors qu'on les accuse, eux, de dysfonctionner et d'être malades.
Est-ce qu'on a quand même un peu d'espoir? Et après, je laisse la parole, pardon, à Richard. Malgré tout, est-ce qu'on a de l'espoir, puisque tu évoques l'éclat des fracas? Je cite, « Existe-t-il un lieu où sonne et résonne le fracas des différentes vies? Et si écrire une ville, un quartier, une ruelle était le moyen de donner au cœur désordonné, le cœur, c'est H ». OUR, au cœur désordonné des vivants, l'éclat de leur démesure. Ça a beaucoup de sens, c'est presque philosophique. Bon, d'ailleurs, tu es poète dans l'âme.
C'est poète, Jérémy.
Qu'est-ce que ça t'inspire? Et Richard, juste derrière.
C'est que les... qu'est-ce qu'ont de commun les gens qui souffrent en commun mais qui ne se connaissent pas? À part ce quartier, cet immeuble, cette rue, cette ruelle, cet instant-là. Mais ces personnages-là ont accès à une démesure parce que le but, ça a été de voir l'intimité de ces personnages-là, de rentrer dans leur intimité psychique et onirique, et de voir à quoi ces personnages-là ont accès une fois qu'ils sont libérés de leur carcan, mais en vivant sans cesse dans ce carcan-là. Et les personnages se suivent et s'enchaînent, mais ne s'emboîtent pas comme dans les pièces d'un puzzle, parce qu'il n'y avait pas une seule image de la vie que je voulais donner, mais le passage de la vie qu'on omet de raconter. Celui qui est le moins glorieux, celui où se lever pour aller au travail, c'est absolument terrible.
Le labeur, comme on peut dire.
Ne pas aller au travail, ça veut dire perdre son travail, donc ça va être encore plus atroce. Et pourtant, d'arriver à enchaîner dans cette mécanique de vie-là et de voir les explosions de vie qui résistent quand même, même si ça passe par la rage, même si ça passe par la perdition.
C'est important de le rappeler. Richard, je t'en prie.
Alors, on sait qu'on peut donc trouver ce livre. Bon, ah. Moi, c'est important. Il est à la FNAC. Et je crois qu'également, si on tape Kiero, on peut avoir et le commander par là.
Oui, oui, oui.
Directement. On peut... Également, il y a d'autres endroits.
Oui, il est présent. Les éditions Kiero ont fait un gros travail de distribution pour une petite maison d'édition. Bien que petite, qu'est-ce que ça veut dire, mais qui n'a pas accès aux modes de distribution classiques de la télé et d'une certaine presse.
Vous n'allez pas être invité sur CNews. C'est étonnant. C'est étonnant, Jérémy.
Mais il est diffusé dans énormément de librairies en France et on préfère. Alors on peut le trouver aux éditions Kiero et le commander, mais c'est vrai que nous on préfère aller à l'ancienne chez les libraires à Marseille. Il est à l'odeur du temps. À l'hydre, à l'histoire de l'œil. Voilà.
Ouais, très intéressant. Kiero Édition, donc, tu l'as dit, sont au Billard à Fort-Calquier dans le 04. Si un jour ils sont dans le coin, on serait ravis de les accueillir parce que, au-delà de ton livre L'éclat des fracas, ils ont quand même des parutions qui sont plutôt sympathiques sur les rentrées littéraires. Voilà. Et en plus, on peut s'inscrire à la lettre de diffusion des éditions Kiero. Et il y a quand même une ADN, une sorte d'engagement, est-ce que tu me rejoins un peu dans ça? Tout à l'heure tu disais, ils sont sur la petite édition, non pas petit par le talent, hein, mais vous vous y retrouvez aussi, il y a cette ADN qui est commune quand même.
Oui, ben Samuel Otexia avait découvert mes textes, il y a 20 ans de ça, avec Agon. Après, il a lu aussi ma poésie, c'est quelque chose dont je suis plus pudique, j'ai plus de mal à en parler, mais il suit ce que j'écris depuis des années, et il avait arrêté l'édition, puis il a repris là de nouveau. Après, il a toujours suivi ce qu'on faisait en théâtre et le travail qui mêlait de recherche esthétique et d'éducation populaire. Oui. Et évidemment, c'est quelque chose que lui-même mène puisqu'il prône une littérature d'émancipation. Voilà. Mais l'émancipation, c'est pas réduire l'art à un slogan. C'est se permettre de rendre compte de la complexité du monde. Même si pour rendre cette complexité-là, moi j'ai utilisé, parce que j'espère ne pas paraître trop... savant, c'est pas le terme, mais...
Absolument pas, on t'a toujours compris, on te comprendra toujours, je te rassure.
Mais le livre est plus simple que ce que je raconte dans le style, c'est-à-dire que j'ai utilisé un langage qui est le plus simple et le plus direct possible pour que le lecteur soit frappé par la violence des émotions, par la rapidité, par la fulgurance de la perdition des personnages. Parce que je pense, comme au théâtre on fait avec Manifestorien d'ailleurs, hein, je pense qu'il faut faire simple pour rendre de la complexité des êtres humains.
Alors écoute, moi je bois tes paroles et alors quand il dit simple, alors moi je vais être honnête, je ne l'ai pas encore lu et je remercie Jérémy parce qu'il a offert à Radio Galère le bouquin et je vous invite auditeurs, auditrices, 15€, vous tapez au-delà de kiero.fr mais vous allez dans les différents points de rencontre. Tu peux les rappeler sur les librairies, tu as parlé, c'est l'odeur du temps, non?
Je sais que là à Marseille, les librairies que moi-même je fréquente depuis assidûment depuis des années, même si je fréquente encore plus la bibliothèque de l'Alcazar, l'Alcazar qui a commandé aussi le livre, mais sinon on peut le trouver donc à la librairie de l'Hydre. oui. De l'histoire de l'œil et
l'odeur.
De l'odeur du temps.
L'odeur du temps, c'est bien ce qui me semblait. Donc voilà, si vous voulez le retrouver,
la FNAC aussi,
il faut y aller. Richard.
Ouais, mais n'allez pas à la FNAC, allez plutôt voir les collègues.
Oui, oui, évidemment. D'ailleurs, quand j'ai entendu Richard dire la FNAC, bon, après, en même temps, je suis complètement d'accord avec toi, mais bon. Si les personnes l'achètent là-bas, bah, tant mieux. Mais utiliser les petits points, c'est peut-être
alors,
plus sympa.
Moi, j'avais juste une question, Jérémy.
Il nous reste 4 minutes.
Toute sa carrière magnifique a été faite dans un style de
bientôt
recherche.
Bientôt à la retraite, j'ai l'impression, Jérémy. il te fait un portrait comme si ta retraite arrivait.
Ouais, mais
de
retraite, je crois que j'en aurais pas.
Avec
temps-ci, mais
la question est la suivante. Est-ce que tu n'aurais pas envie un jour de changer un style dans un style plus léger, si tu veux, comique ou autre. Est-ce que cette expérience-là que tu as peut pas de temps en temps. Est-ce que tu aurais envie de changer éventuellement dans l'optique? Est-ce que c'est envisageable, ça?
Il y a deux choses. Ce que vous faites avec Manifeste Rien, en tant qu'auteur, metteur en scène, là, c'est quand même sur des sujets qui ne sont pas drôles, puisque ce sont ceux des conflits sociaux, ceux de la domination, mais qui utilisent le mode du burlesque. Tu as pu voir l'histoire universelle de Marseille.
Complètement. Il y a un côté frappant et glaçant, mais il y a un côté extrêmement burlesque, second degré, et où tu te régales, hein, humoristiquement parlant. Donc ça aussi, c'est important.
Et après, dans l'éclat des fracas, c'est vrai que je me suis autorisé davantage de noirceur parce que je pense que la littérature est un acte plus solitaire. C'est-à-dire que celui d'écrire, déjà, ce livre-là, je l'écris bien davantage seul, bien qu'on ne soit jamais seul. On le fait lire aux amis. On imagine que
Virginie a du temps en temps.
Voilà, il y a des relectures qui se font. Mais c'est un travail qui est beaucoup plus solitaire à la création et qui l'est aussi à la réception. C'est que le lecteur est seul avec le livre, et je crois qu'on peut du coup s'autoriser à aller plus loin dans la restitution de la violence. Et je pense que justement, c'est que quand on est mal, la littérature permet cette brèche-là et permet de se retrouver et de pouvoir nommer ce que nous, dans la vie quotidienne, on n'arrive pas, pris par les aléas, pris par le temps, pris par la dégradation biologique, que sais-je, mais de voir ça retranscrit dans la littérature permet d'accéder à une forme d'investigation sur soi-même et de libération. Et je pense que moi j'aime beaucoup la littérature américaine, celle de John Fante, de Bukowski.
Oui, tu l'as déjà évoqué à plusieurs reprises sur les ans de galère.
Dont j'entends souvent des gens dire, ou Stieg Dagerman dans un autre style, que c'est une littérature noire. Mais moi, je sais qu'au plus noir de ma vie, c'est ces livres-là qui m'ont fait rire. C'est ces livres-là qui m'ont porté espoir. C'est ces livres-là qui m'ont dit, mais non, tu n'es pas seul à voir qu'absolument rien fonctionne et qu'il faut absolument tout renverser. C'est pas toi qui es à l'envers. Et très humblement, sans me comparer à John Fante ou à Stieg Dagerman, c'est ce que j'ai essayé de faire, et j'espère que ça fera un tout petit peu de bien aux gens qui vont très mal. Ensuite, il y a aussi par rapport à la noirceur, il y a aussi des échappées. J'ai aussi des retours comme ça où il y a parfois les personnages s'échappent d'eux-mêmes dans une forme de surréalité où il y a par exemple une femme qui n'en
peut plus. Sur la boulangerie peut-être, non ? C'est pas là ? Peut-être pas, non ?
La boulangerie.
Moi, j'ai lu un petit des petits passages, puisque du coup on n'avait pas pu se procurer le livre, mais il y avait un truc sur la boulangerie où je crois qu'elle prend un chocolat, enfin tu racontes un truc, mais j'ai vu qu'il y a une sorte de second degré ou de poésie, pas le côté noirceur comme l'a évoqué, c'est-à-dire que vous n'allez pas lire ça et partir en dépression et vous suicider derrière. Non, mais c'est important de le rappeler.
Non, je pense pas, oui, la boulangerie, ça y est, lors du dernier récit qui est plus long. La troisième partie du roman, qui est justement ce manœuvre qui creuse une tranchée au pied de la Seine Victoire et qui trouve qu'un très certainement un meurtre a eu lieu dans la terre qu'il est en train de creuser, et la boulangère est-elle liée ou pas à ce à ce meurtre-là qui a eu lieu dans cette sur cette terre rapportée. se dégrade au fur et à mesure. Ça, c'est pas le côté le plus funky, mais c'est cette poésie là qui m'intéresse, voir les corrélations, les corrélations qui se passent. Mais par rapport à ce que disait Richard sur l'espoir, c'est qu'il y a aussi cette forme de délire. Il y a des personnages, il y a notamment une femme qui fait très peu l'amour avec son mari et qui picole du coup beaucoup trop quand il n'est pas là, mais qui peut s'échapper en sautant de son immeuble, mais au lieu de s'écraser, elle volette au-dessus des zones commerciales et voit finir sa bière avec un ange. Il y a des passages, divers passages comme ça, où quelqu'un qui est absolument seul la nuit et qui se retrouve face à une tarasque qui lui permet de retrouver le chemin de la mer. Enfin, il y a aussi ces échappées-là dans l'éclat des fracas.
Donc il faut vous le procurer, je le rappelle, l'éclat des fracas. Jérémy Béchamp est avec nous. On va devoir conclure cette émission aux éditions Quiero. La couverture, le dessin de Anne van der Linden, j'espère ne pas me tromper.
C'est ça.
Pour la prononciation, au prix de 15 euros. Merci Jérémy.
Merci beaucoup.
D'avoir été avec nous, c'est toujours un plaisir de te recevoir. Jérémy Béchamp, c'est aujourd'hui l'éclat des fracas, mais c'est au quotidien et depuis 20 ans, collectif manifesterien aussi. Un mot vraiment, il nous reste 30 secondes. Les projets à venir, est-ce qu'il y a des dates? On veut tout savoir là, aller jusqu'à la fin de l'année 2025. Qu'est-ce qu'on a là de beau?
J'espère faire d'autres. On va organiser des rencontres avec les éditions Quiero pour l'éclat des fracas. Et ensuite, on a avec Manifesterien une nouvelle création qui est écrite par Virginie Hémon et que peut-être elle viendra vous présenter sous peu, qui s'appelle Public Amor. Alors, Amor Amore, Public Amor.
Tu es bon.
Qui est sur la casse du service public. Et qui est une lutte jubilatoire contre ce monde-là qui est en train d'éclater, on le sait, le monde de la santé, le monde de l'éducation.
De tout, parce que, alors là, avec grand plaisir, on te recevra, et il faudra même qu'on invite quelques syndicats peut-être pour en parler, parce que la case du service public, à l'époque, on parlait de France Télécom, mais elle est présente dans l'éducation, dans la santé, dans la jeunesse, dans tous les services, à la poste, à la SNCF, et voilà, il y a beaucoup de choses à dire et c'est super intéressant. C'est un projet qui verra le jour fin d'année ou plutôt on verra en 2026?
Non, Public Amor, on a fait une sortie de résidence en avril là, à la distillerie d'Aubagne avec qui, enfin, où on a créé la pièce, ouais. Et on fera la première avec l'association Coude à Coude lors du festival Débattons-nous le 13 novembre au Théâtre du Hangar dans le 4e au Chartreux.
Très bien. Ben, j'aurai certainement Michel Potoudis qu'on connaît très bien et qui vient plusieurs fois sur les ondes de Garde Galère, qui est le coordinateur de Coude à Coude. Merci beaucoup Jérémy,
merci
Richard.
Beaucoup à vous deux.
C'était un vrai plaisir de te recevoir. Passe le bonjour à toute l'équipe. Et donc, vous l'avez bien saisi, auditrice auditeur, l'éclat des fracas, Jérémy Béchamp aux éditions Quiero, comme Quiero l'amour, je t'aime, aux éditions Quiero. N'hésitez pas à vous le procurer. Il y a du talent et le talent, il est aujourd'hui chez nous. Nous, on se retrouve, non pas la semaine prochaine, mais exceptionnellement, c'est les vacances. Il faut que j'honore mon rôle de papa et donc m'occuper des gosses. Donc la semaine prochaine, il n'y aura pas d'émission. Exceptionnellement, on se retrouve dans 15 jours avec toujours autant de plaisir à vous retrouver sur les ondes de Radio Galère de 8h à 10h. Et je rappelle que cette émission sera rediffusée ce dimanche de 11h30 à 13h en rediffusion. Voilà, si... juste avant le petit repas du dimanche, vous pouvez allumer votre radio si vous êtes sur la route pour les activités sportives des uns et des autres. Ça va être le cas pour moi, pour ma fille. Ben, n'hésitez pas à vous connecter ou à écouter Radio Galère. Merci Jérémy, merci Richard. Tout de suite, la programmation de Radio Galère. Belle journée à toutes et à tous. Au revoir.